Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Bienvenue à tous et merci de suivre cet espace dédié à l'actualité économique sur Radio de la Paix. Votre émission Economia aujourd'hui s'intéresse à la lutte contre le blanchiment de capitaux et de lutte contre le terrorisme. On en parle encore avec Faustin Onozon comme consultant. Il est expert en intelligence économique et il nous apportera des éléments de réponse sur les questions que nous nous posons. Nous le retrouverons dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie et après nous aurons la rubrique Itinéraire et nous découvrons depuis la semaine dernière Madame Guédé Salimata, opératrice économique intervenant dans la restauration San Pedro. Elle nous parlera de son parcours de vie et la suite de son histoire. C'est dans moins de 10 minutes. Mais avant, explication de certains termes économiques et c'est dans le lexique économique qui démarre maintenant.
Le lexique économique.
Le GAFI identifie les juridictions ou les pays dont les mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme sont faibles dans deux documents publics et qui sont publiés trois fois par an. En juin 2024, le GAFI a examiné 133 pays et juridictions et en a identifié publiquement 108. Et parmi ceux-ci, 84 ont depuis lors procédé aux réformes nécessaires pour remédier à leurs faiblesses en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ont été retirés du processus selon le site de cette organisation.
La liste noire.
La liste noire est composée des pays ou juridictions à haut risque visés par un appel à l'action. Et cette déclaration identifie en effet les pays ou les juridictions présentant de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme.
La liste grise.
La liste grise, elle, identifie les pays ou juridictions soumises à une surveillance renforcée. Et cette déclaration identifie les pays qui travaillent activement avec le GAFI pour remédier aux déficiences stratégiques de leur régime de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s'est engagé à résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans des délais convenus et qu'il est soumis donc à une surveillance renforcée.
Regard sur la gestion économique nationale.
On est encore avec M. Faustin Onozon. Bonjour M. Faustin Onozon.
Bonjour M. Koumé.
Alors aujourd'hui encore, nous parlons de lutte contre le blanchiment de capitaux. C'est lié à la lutte contre le terrorisme. Alors dites-moi, c'est quoi le lien entre ces deux situations?
Bon, les terroristes, comme vous le savez, l'objectif principal c'est de tuer malheureusement. Mm-hmm. Mais on ne détruit pas seulement avec la force physique. Avant de faire appel à la force physique, il faut bien des éléments financiers assez importants.
Ils se donnent les moyens.
Voilà, en fait. Donc ils se donnent les moyens à travers le blanchiment des capitaux. Mmh. Et ça peut être des produits issus de la drogue. Ça. Ou alors, c'est pour qu'il y ait eu des tueries, des attaques des banques, etc. Et c'est cet argent qu'ils prennent généralement pour aller assouvir leur destin, mmh, qui peut être un destin social ou alors politique ou même religieux. Donc, le lien le plus important, avant d'assouvir le destin, mais il faut se donner les moyens. Et que ce soit la prolifération des armes de destruction massive, ben, on ne leur donne pas ça cadeau. Ces armes, on les achète. Et pour les acheter, il faut d'abord blanchir. Et c'est ce qu'ils font. C'est pourquoi pas de blanchiment des capitaux qui va aboutir au terrorisme et qui va aboutir à la prolifération des armes et des destructions massives.
En tout cas, c'est une triste réalité. Alors, ce qui nous amène à parler de cette réalité, pour savoir un peu, vous l'avez dit, ce que l'État ivoirien fait à travers ces structures mises en place. Vous avez parlé de JABA, de la Centif, des structures qui existent depuis, pour lutter efficacement contre donc, cette mauvaise pratique. Mais il se trouve qu'on a été tous un peu étonnés que récemment, le GAFI a donc mis la Côte d'Ivoire, comme d'autres pays africains, qui sont sur la liste dite grise. Alors, on se pose la question, c'est quoi la liste grise et pourquoi on y est?
C'est un peu comme des indicateurs, j'allais dire, de performance. Mm-hmm. La meilleure performance, c'est la liste blanche. Voilà, ça veut dire qu'on ne vous compte pas parmi ceux qui font du blanchiment.
Des pays à risque, on peut dire.
Voilà, des pays à risque. Mm-hmm. Et puis après, juste après la liste blanche, vient la liste grise. Mm-hmm. Grise, ça veut dire déjà que vous n'êtes pas sur la bonne piste. Mm-hmm. Ça veut dire que chez vous, il existe des blanchisseurs. C'est aussi clair, mm-hmm, et net. Et puis ensuite, il y a la liste noire. La liste noire, c'est que vous êtes infesté, c'est le mot qui convient d'ailleurs, des terroristes, des personnes qui sont sur la liste de ceux qui vendent la drogue pure et dure. Et ça, c'est la liste noire. Et nous sommes sur la liste grise.
Pour vous permettre de continuer, on était où pour apparaître? Pourquoi c'est cette année 2024 quand on voit la Côte d'Ivoire citée parmi les pays en griffe qu'il faut surveiller dans ce domaine?
Eh bien oui, on était sur la liste blanche. On n'avait pas de problème particulier. On a même pris une loi d'abord. Et quand il y a eu le phénomène axé sur le financement de la prolifération des armes de destruction massive, et on a dû prendre une ordonnance pour pouvoir compléter les premiers paramètres en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Donc jusque-là, il n'y avait pas de disposition particulière. Mais tous les pays du monde sont sous contrôle. Du GAFI, chez nous ici, il n'y a pas seulement que le GAFI, mais il y a le JABA aussi, qui, dans le cadre de ces dispositions administratives, mène aussi ce genre d'action. Alors, donc dans le cadre de ce contrôle-là, il a été estimé que nous ne remplissons plus toutes les conditions nécessaires pour être sur la liste blanche. Et je vous disais tantôt, je crois la semaine dernière, qu'il y a 40 recommandations du GAFI qu'il faut absolument respecter. Dans ces recommandations, la toute première, ce sont des politiques et coordination en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Et donc, ces recommandations, on les prend une à une et on essaie de voir de quoi elles répondent, quelles sont leurs implications, quel est l'impact malheureusement négatif de toutes ces recommandations sur la gestion de vos différentes politiques économiques et financières. Voilà. Qu'est-ce que vous faites en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux? Qu'est-ce que vous faites en matière de lutte contre le financement du terrorisme? Et est-ce qu'il y a une transparence dans le cadre de la gestion de vos politiques économiques et financières? Et c'est tous ces contrôles qu'on fait, vraiment d'une manière très détaillée, avant de vous enlever d'une liste pour aller sur une autre liste. Le Sénégal était sur la liste grise.
Oui, c'est ça.
Ils sont maintenant venus sur la liste blanche. Parce qu'effectivement, ils ont lutté.
Oui, justement, pour prendre le cas du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est seulement au niveau des textes à respecter qu'on évalue un pays ou bien on vient enquêter concrètement, vous qui avez été formé dans ce domaine?
Je vous avais dit tout à l'heure que j'étais évaluateur national. Un évaluateur national, il est formé pour la vie. Mais je ne peux malheureusement pas évaluer mon pays.
C'est cela.
Voilà, je suis fait pour évaluer les autres pays. Mais avant qu'on ne soit sur une liste grise ou une liste noire, mais on fait l'objet d'une évaluation. Voilà, je crois qu'il y a eu une dernière évaluation ici en Côte d'Ivoire. Il y a des recommandations qui ont été faites par le GAFI. Certainement, c'est à l'issue de ces recommandations que nous sommes allés sur la liste grise. Mais être sur la liste grise n'est pas une fin en soi. Ça veut dire que vous devez travailler, vous devez prendre toutes les dispositions idoines pour pouvoir ressortir de cette liste-là. Et il y a deux aspects dans un pays. Il y a le secteur privé et il y a le secteur public. Le secteur privé, lui, dépend largement des opérations financières qui sont menées par les banques et établissements financiers. Et il y a un contrôle qui s'est fait au niveau des banques, parce que dès que l'argent sort du pays, et si le contrôle n'a pas été efficient, s'il n'a pas été efficace, et cela peut avoir un impact négatif sur la balance des paiements. Et ça peut entraîner un pays vers la cessation des paiements. Et donc, quand on vous dit que vous êtes sur une liste grise, cela veut dire que vous devez redoubler d'efforts. Au niveau du secteur bancaire et financier, comment est-ce que vous faites votre contrôle et quels sont les aspects que vous devez réellement contrôler? C'est de tout ça qu'on parle. Quand on fait une enquête, excusez-moi, c'est par rapport à tout ça. Et à l'autre aspect où il y a des assujettis. Les banques même sont des assujettis. L'État aussi est un assujetti. Les notaires, les avocats, les immobiliers, tout cela sont des assujettis. C'est des gens auxquels on confie des tâches assez importantes pour la gestion de nos politiques économiques et financières. Donc le contrôle, c'est par rapport à tous ces assujettis dont je viens de parler.
Alors, quand le GAFI décide de vous classer, par exemple, sur la liste grise ou la liste noire, qui sont, ou la liste blanche, prenons les trois cas, quelles sont les conséquences d'abord d'être sur la liste blanche, ensuite sur la liste grise, malheureusement, et sur la liste noire?
Bon, les conséquences, les premières conséquences, c'est de vous amener d'abord à travailler.
C'est cela.
Voilà. Quand on vous dit que vous n'avez pas eu la moyenne en classe, la première conséquence n'est pas de vous mettre dehors. On vous mettra dehors quand vous n'allez pas chercher à avoir la moyenne. Voilà, pour être sur la liste des élèves susceptibles de passer en classe supérieure. Mais c'est exactement la même chose. Quand vous êtes sur une liste grise, c'est que vous ne respectez pas, j'allais dire, toutes les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement terrorisme. Je prends par exemple le cas de notre pays. Il a été dit dans l'ordonnance numéro 2023-875 du 23 novembre 2023 que tous les assujettis, par exemple, doivent avoir à leur disposition, au risque de me répéter, un dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et ce dispositif est fait pour mettre sur pied ce qu'on appelle une évaluation. Là, je prends un notaire. Lorsque vous avez un client, par exemple, qui doit acheter une maison ou même qui doit faire une transaction financière avec l'étranger, il y a un certain nombre d'éléments par lesquels vous devez passer et qui font partie de votre dispositif. Aujourd'hui, il n'est plus question de lui poser toutes les questions qui vous passent à l'esprit. Non, non, non. Le dispositif est là. C'est lui qui doit tout faire. Mais c'est de tout ça que parle le GAFI. Entrez-vous des dispositifs. Entrez-vous d'éléments cohérents, susceptibles de vous amener d'une manière scientifique à déceler la corruption, à déceler le blanchiment des capitaux.
En tout cas, c'est un aspect important. Hein, les conséquences sur les citoyens que nous sommes. On va en parler dans une autre émission. Merci, M. Fosson-Nozon.
Je vous en prie.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Pour ceux qui nous ont suivis la semaine passée, nous continuons avec Madame Guédé Salimata San Pedro. Elle nous parle encore de son histoire. Écoutons. Madame Guédé, vous aimez beaucoup les voyages, hein, l'aventure. Ça ne vous effraie pas?
Bon, pas trop. Au fait, je me dis, il faut aimer la chose. Et puis, toi-même, il faut te faire confiance. Et on a eu quand même une base d'éducation et les parents. Les conseils des parents, quand tu dois aller quelque part, on te donne beaucoup de conseils. C'est de là que je suis partie avec elle au Ghana. Et on a eu acheté des petits trucs à la frontière juste à Elibou. Donc, partant par mesure de précaution, je suis parti à 300 000 et j'ai laissé 300 000. Les 300 000 que j'ai pris pour aller payer les achats, je viens, je vends, j'ai 700 000.
De tout ce que vous nous dites, dès le début, vous avez l'envie de vendre. Est-ce que c'est quelque chose que votre famille faisait quand vous étiez à Bobo?
Bon, ma maman, elle faisait du petit commerce. Ma maman vendait le vivrier, les petits trucs. En tout cas, quand on était en vacances, on vendait avec elle. Et quand j'ai été au lycée moderne de Grand Bassam, ma tutrice était une grande commerçante. Elle avait des grands magasins de vivriers. Et je l'aidais dans la gestion, je l'aidais dans l'accueil des clients. Je pense que tout est parti de là aussi.
Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais que vous insistiez, la gestion des fonds. En 3 mois, vous réussissez à avoir 1 million. Ensuite, vous perdez, vous réussissez à reconstituer. Comment il faut gérer tout ce fonds-là pour fructifier l'argent?
Bon, il faut dire que ce n'est pas facile, mais je retiens quelque chose. Il faut être honnête, il faut être sincère, il faut avoir la crainte des hommes et la crainte de Dieu. Moi, toutes les activités que je viens de citer là, toute personne qui soulève mon bagage, qui a transpiré, je ne te laisse pas sans signe. Parce que la sueur de l'être humain là, il faut respecter. Sinon, vous risquez tout ce que vous allez faire, ça peut vouer à l'échec. Pour une seule personne qui n'est pas contente, ça peut vous créer des problèmes. Et puis, il faut dire aussi, bon, je n'étais pas trop dans la mode. C'est-à-dire, les jeunes filles, il faut acheter ceci, cela. Je n'étais pas trop dedans. Parce que j'ai vécu dans une famille très modeste où les moyens n'arrivaient pas à couvrir les dépenses. Donc, franchement, je n'étais pas dans le gaspillage, je n'étais pas dans les achats excessifs de quoi que ce soit.
Alors, on parle du présent aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans un espace. C'est quoi l'histoire de cet espace-là?
L'histoire de cet espace, comme je vous l'ai dit, on a fait le vivrier. Après encore, je me suis relancé dans le commerce des pagnes, allé à Cotonou, au Mali. Bon, j'ai rencontré un monsieur, on s'est marié. J'ai eu 3 charmantes filles. Et avec l'avènement de la crise, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, il ne faudrait pas que je sois un de mes voyages et qu'il y ait un problème derrière moi. Donc, je vais arrêter pour surveiller les enfants. Et on a commencé à faire les jus, les galettes, les gâteaux, tout et tout. Et bon, il faut dire, même quand on faisait les galettes, je me suis mise dans la vie associative, aller dans les réunions des femmes, vraiment écouter les femmes, trouver solution à leurs problèmes. Et du coup, j'étais devenue relais communautaire de beaucoup de structures, telles que la CNU juridique. Même quand l'ONU était venue, tel leur relais communautaire, on était dans la communauté pour leur faire des reportages par rapport aux violences que les femmes et les enfants subissaient. Étant point focal, il y a des cas qui me revenaient, mon mari ne travaille pas, je n'ai pas de ressources, bon, il n'y avait pas de structure de prise en charge. Donc, c'est là, les gâteaux qu'on faisait, on a fait ça comme une structure une structure pour pouvoir aider les femmes. Et c'est là qu'on était dans l'ONG, Organisation des femmes actives de Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'on a créé le groupement des femmes actives de Côte d'Ivoire parce qu'on va dans les associations faire les sensibilisations, dire aux femmes, faites vos papiers, déclarer les naissances. Et on va à la clinique juridique pour leur parler des thèmes, le mariage, la succession. Et c'est là que l'ONUCI nous a soutenus en nous donnant un financement en matériel et en intrants pour pouvoir mettre ces femmes-là en activité. Et comme on partait aussi dans les villages communaux, jour du marché aussi, surtout pendant la traite, j'avais une forme de prostitution. Les gens viennent vendre le cacao, ils utilisent les petites filles. Donc nous, quand on envoie les gâteaux, les jus, on donne aux filles là pour qu'elles vendent en fin de journée. Elles prennent leurs bénéfices et puis elles donnent le capital. Et à partir de ça, on fait une sensibilisation sur un thème pour vraiment dire aux enfants qu'elles sont véritablement exposées à beaucoup de dangers. Et en plus de l'ONU, il y avait UNFP aussi qui nous a soutenus parce que c'était du vrai, c'était du vécu. Ils voyaient ce qu'on faisait. Donc eux aussi nous ont soutenus. Ils ont eu une collègue qui était venue... Koulibaly, Kadiatou Cissé qui était venu. Bon, on allait faire une sensibilisation à Ouaté sur l'excision. J'ai intervenu en langue, tout et tout. Et elle est venue me trouver. Ah, mon maman, c'est moi, j'étais là-bas pour faire les photos. J'ai une activité, les journées onusiennes, couplées à une journée carrière des élèves. Je viens d'arriver. Je cherche prestataire. Parce que nous, à l'ONU, on ne donne pas l'argent. Il faut finir l'activité et on va te payer. Et j'ai dit au maman, voilà notre fille. On vient de l'affecter. Elle a le dos au mur. Elle nous demande, essayons de l'aider. Et je lui demande, fais quoi? Elle dit, non, ça va durer une semaine, on doit louer des bâches, on doit préparer. Donc, je me suis jetée dans l'activité avec les autres dames. Pas pour avoir une marge bénéficiaire, juste, c'est notre fille, il faut qu'on l'aide pour qu'elle puisse faire un bon rapport. Et il y avait un volet restauration. Non, c'est pas fatigué, on a fait tchèp, atchèque, bouillie d'ignam, poulet, poisson. Et il y a eu un attroupement. Et quand on a fini cette activité, les gens étaient contents. Le lundi qui a suivi, DR Plan nous appelle. Il y a un séminaire de UNICEF, 70 personnes pendant 3 jours, pause café, pause déjeuner.
L'idée de la restauration.
La restauration est partie. On finit, on nous appelle, on dit non, on est ici, les policiers, ils ont une activité, on veut que vous préparez. Et c'est comme ça, c'est parti.
Donc aujourd'hui, vous décidez d'en faire une activité. On se retrouve dans un espace. L'histoire de l'espace, c'est quoi?
L'histoire de l'espace, vraiment, il faut dire aussi qu'en son temps, les autorités ont voulu nous aider. Et quand on a eu le site, il y avait le sous-préfet central qui est là, qui était mon propre petit frère. En tout cas, lui nous a aidés. Quand il est venu, il a vu le site. Il dit, oh, quel que soit ce que la femme demande, moi je m'engage à donner pour que vous soyez en ville. Et c'est là que nous nous sommes installés. Donc aujourd'hui, vraiment ma grande satisfaction, pas en termes d'argent, mais toutes ces personnes qui se lèvent matin, qui ont une occupation, qui puissent avoir quelque chose à la fin du mois pour prendre leur famille en charge. C'est ce qui est ma plus grande satisfaction.
Alors justement, lorsque on a connu ce parcours que vous nous avez raconté, et puis on arrive à ce niveau de réalisation, qu'est-ce que vous dites, Madame Guédé?
Bon, mon état d'esprit, c'est une satisfaction. Mais je ne suis pas encore arrivée. Parce que ceux qui sont autour de moi, je vais les voir autonomes aussi. Et travailler, économiser, se retirer, aller faire aussi et pouvoir aider d'autres personnes. Donc moi, je dis que c'est un parcours. On ne peut pas s'arrêter pour dire je suis arrivé.
Vous êtes allé à l'école, vous avez écouté vos études, vous l'avez expliqué. Comment vous réussissez à gérer tout cela?
Il faut dire que ce n'est pas facile. À moi seul, je ne peux pas gérer. Il y a un comptable, il y a une caissière, il y a les cuisiniers, il y a les serveurs, il y a les plongeuses, il y a les serveuses. Donc ce n'est pas facile. Moi, je ne fais que la coordination.
Alors, pour terminer, quels sont vos conseils par rapport à votre parcours, votre vécu?
Bon, ce que je vais dire, c'est de vraiment avoir le courage. Il faut être très courageux. Et puis, j'insiste, l'honnêteté là, l'honnêteté, ça paye. Le respect de la parole. Et puis, il faut être crédible. Il faut toujours payer les fournisseurs et en temps réel. Et ça, c'est important pour une activité de cette envergure. C'est pas à tout moment qu'on peut avoir de la liquidité. Donc, quand vous n'avez pas de bons fournisseurs, vous risquez de perdre de gros marchés. Donc, je leur dis vraiment d'être courageux, d'être sincère, et de vraiment prier, parce que c'est un milieu aussi où il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut avoir confiance en Dieu.
En tout cas, vous l'avez entendu, mes auditeurs, parcours inspirant hein, de cette dame, Madame Guédé, que nous découvrons à San Pedro. Merci, Madame Guédé.
Merci, monsieur. Bonne journée à vous.
À mes auditeurs, on va se retrouver sûrement avec une autre personne hein, pour découvrir d'autres expériences itinéraires. C'était donc avec Madame Guédé à San Pedro. Merci à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.